Europe 1, 15h-16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous les curieux pour une promenade qui s'annonce réellement passionnante. Deux expositions majeures sont en ce moment consacrées au père de l'art moderne, au Minotaure Pablo Picasso. La première, Picasso bleu et rose, jusqu'au 6 janvier 2019 au musée d'Orsay à Paris. La deuxième, Picasso chef-d'œuvre jusqu'au 13 janvier 2019 au musée national Picasso Paris. Alors deux expositions en miroir et complémentaires qui donnent vraiment les clés du cheminement d'un génie et nous aident à comprendre comment les toiles majeures, qui nous semblent abstraites, sont curieusement contenues, telles des promesses, dans les toiles figuratives des périodes antérieures, bleues et roses. Donc, l'idéal, pour comprendre la maturation de cette œuvre qui révolutionna le XXe siècle, eh bien, c'est d'aller sans doute d'abord au musée d'Orsay, puis au musée Picasso. Et cet après-midi, eh bien, j'ai convié pour vous un guide absolument exceptionnel. Olivier Widmayer Picasso, petit-fils du maître et auteur d'ouvrages et de documentaires qui tous ont fait autorité pour percer les mystères de ce grand-père plus célèbre que Léonard de Vinci.
Europe 1.
Bonjour Olivier Widmayer Picasso.
Bonjour.
Alors bon, j'imagine qu'il y a tous les avantages à porter le nom glorieux de Picasso, sauf un. S'il y a bien une chose interdite quand on est le petit-fils de Picasso, c'est de peindre et de dessiner, non ?
Absolument, c'est la vérité. J'ai tout tenté pendant mon adolescence au lycée. On me donnait des qualités que je n'avais pas. J'ai compris plus tard que les professeurs de dessin avaient un problème parce qu'ils pensaient que j'allais rentrer à la maison et parler d'art avec de véritables esthètes, ce qui n'était pas le cas. Donc on m'a toujours promis que j'allais être un grand artiste et puis un jour, en option au bac, j'ai eu 3 sur 20. Ça a tout de suite mis fin à ma carrière d'artiste.
Oui.
Je me suis débrouillé autrement.
Donc, si vous êtes juriste de formation et si vous avez monté vos propres sociétés de production, c'est parce que, effectivement, vous avez compris très tôt que on peut toujours essayer d'être Rothschild après Rothschild, mais on peut pas être Picasso après Picasso. Elle est belle, cette formule.
Oui, c'est la vérité. Je pense que c'est très compliqué d'être le descendant d'un artiste. C'est plus facile peut-être à la troisième génération, comme la mienne, parce qu'on a un regard qui est empreint de respect et aussi de volonté, de réalité historique. Et puis on est un peu plus libre, libre de faire ce que l'on veut. Malgré tout, dans mon cas, avec un tel grand-père, j'aurai toujours une partie de ma vie qui sera influencée par sa présence. Donc j'ai appris à vivre avec lui.
Alors, Olivier Picasso, il n'y a rien de plus subjectif que l'amour de l'art, même quand on nous explique que tel artiste, plus qu'un autre, est un génie pur. Que se serait-il passé si vous n'aviez pas été touché par l'œuvre de votre grand-père? Si en grandissant, vous qui êtes l'un de ses héritiers, vous n'aviez pas aimé les toiles de Pablo Picasso?
Eh bien, c'est une question très complexe, mais qui ne s'applique pas à Picasso. Parce que finalement, chacun peut trouver son Picasso dans l'œuvre. C'est incroyable. On a parlé de période, mais pour mon grand-père, c'est un cheminement, une évolution, à la fois dans la technique, parce qu'il était extrêmement doué. Dès l'âge de 7 ans, il commence à peindre. À 16 ans, il gagne des premiers prix. Et ensuite, eh bien, il crée son propre discours, son propre langage. Et finalement, à travers presque 80 ans de carrière, on peut trouver une période flamboyante, une période bleue, une période rose,
le figuratif, du cubisme.
Et franchement, si on met son nez dans une encyclopédie avec de belles images, chacun trouvera son Picasso.
Alors en fait, Picasso, votre grand-père, a impacté votre vie bien au-delà d'un héritage financier. Il vous a offert une passion.
Je pense qu'il y a un atavisme. Dans ma famille, ma propre mère, Maya, ou sa sœur, Paloma, sont des gens qui ont beaucoup de talent pour dessiner, pour créer. Et je pense que la création, telle qu'on la connaît chez les auteurs, chez les acteurs par exemple, c'est quelque chose qui imprègne l'entourage. Et je pense que la notion de création était importante, sauf que moi je l'ai trouvée à travers le talent des autres.
Alors il y a bien un mystère Picasso, parce que en réalité, l'artiste appartient à la fois au 19e siècle et au 20e siècle. Il accouche de l'art moderne, mais effectivement, il commence avec une maîtrise hallucinante dans une peinture classique.
Pablo est un enfant du 19e siècle. Son père était professeur de dessin.
Oui.
Et d'ailleurs, très tôt, il s'est rendu compte que son fils avait du talent. Il a pensé, il sera comme moi, professeur de dessin. Et puis très vite, il s'est aperçu que l'enfant dépassait le père et que cet enfant serait beaucoup plus qu'un professeur de dessin. Il serait un artiste et peut-être même un jour au Prado.
Entre 1907 et 1909, à Paris, ont été organisées les premières grandes expositions d'art primitif avec des sculptures, des masques et des statuettes africaines. Picasso a beaucoup déambulé dans la toute première exposition organisée en 1907 au musée du Trocadéro. Il était complètement fasciné. Alors, ma question est simple. Serait-il devenu le père de l'art moderne, Picasso, s'il n'avait pas été hypnotisé par l'art africain? Aurait-il en fait su faire ce retour au primitif seul?
Pablo Picasso a fait le chemin inverse de n'importe qui. C'est-à-dire qu'un tel talent à l'adolescence lui a permis de réaliser des œuvres comme des artistes qui auraient déjà 50 ans d'exercice auraient pu réaliser auparavant. Et lui s'est dit que la peinture avait une autre signification. D'ailleurs, il l'a dit souvent, c'est une arme. Ce n'est pas pour décorer les appartements. Et il a en effet été impressionné par un art nouveau, par la découverte de ces statuettes, de ces sculptures africaines au Musée de l'Homme.
L'art qui est à la genèse de tous les autres.
Absolument. Ce qu'on appelle les arts primitifs chez nous, en Europe, mais que les Américains se gardent bien d'appeler arts primitifs.
Comment appellent-ils
cet art ? Pour eux, ce sont les arts premiers, c'est l'origine, c'est le début. Et lorsque Pablo parcourt les salles du Musée de l'Homme, elle découvre des statuettes qui l'impressionnent.
Mais alors, tout ça, ça induit une question. Parce que j'ai retrouvé une photo de Guillaume Apollinaire, prise en 1910 dans l'atelier de votre grand-père, Pablo Picasso. Apollinaire est assis donc parmi des sculptures et des masques africains, posés à même le sol. Et Apollinaire, d'ailleurs, décrit ainsi l'atelier de Picasso. Partout, des idoles océaniennes et africaines, des pièces anatomiques, des instruments de musique, des flacons, beaucoup de poussière d'ailleurs. Il paraît d'ailleurs que jusqu'à la fin de sa vie, Picasso a acheté de l'art africain. Il en a consommé. Alors, pourquoi votre grand-père, en 1920, lâcha-t-il cette phrase devenue célèbre « L'art nègre connaît pas » ?
Parce qu'il était un provocateur et détestait être mis dans une boîte. Et finalement, l'art nègre connaît pas, c'est une pirouette. Parce que pour lui, c'est l'essence même de l'art.
Est-ce qu'il voulait dire que, en fait, c'est sa signification, c'était ses usages qu'il ignorait d'une manière un peu ethnologique ?
Certainement, il y avait un regard ethnologique sur ce qu'il découvrait, mais il y avait aussi l'idée qu'il s'inscrivait lui-même dans l'histoire de l'art et que ce qu'on appelait l'art nègre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art primitif, ou les arts premiers d'ailleurs, c'était un moment de l'histoire de l'art et un moment fondateur. Ce qui est amusant dans la photo que vous évoquez, c'est que l'une des sculptures que l'on voit, un totem, aujourd'hui appartient à ma mère, qui a passé beaucoup d'années avec cet objet.
Et
lors de
Maya,
la succession de mon grand-père, elle a reçu cette œuvre et elle nous l'a expliqué, à nous ses enfants, en montrant beaucoup de respect. Et quand on voit des photos avec Apollinaire, évidemment, c'est magique. C'est un grand moment d'émotion de se dire « Waouh !» J'ai un grand-père qui a connu Apollinaire, qui était son copain.
Tous nos auditeurs à chercher sur le net, parce qu'il y a de vrais petits miracles, comme ces photos d'Apollinaire dans l'atelier de votre grand-père, Pablo Picasso.
Et on peut les retrouver également lorsqu'on consulte par exemple le site du musée du Quai Branly.
Oui.
Parce que l'an dernier, il y avait une très belle exposition consacrée justement à cette période et à la collection incroyable, plus de 100 sculptures que mon grand-père avait acquises tout au long de sa vie.
Europe 1.
C'est avec Olivier Picasso que nous allons cheminer cet après-midi. J'ai mille et une questions à lui poser. La balade s'annonce passionnante. Je vous retrouve tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit cet après-midi Olivier Picasso jusqu'à 16h sur Europe 1.
C'est en allant au musée d'Orsay à Paris avant le 6 janvier et au musée Picasso Paris avant le 13 janvier que vous comprendrez comment Pablo Ruiz est devenu Picasso. Je reçois cet après-midi son petit-fils, Olivier Widmeyer Picasso, auteur et producteur. Alors cher Olivier, en cette fin d'après-midi du dimanche 8 avril 1973, vous regardez la télévision avec votre mère et votre petite sœur quand soudain un flash spécial interrompt le générique du film et on annonce Pablo Picasso est mort ce matin sur la Côte d'Azur, à l'âge de 91 ans. Il est considéré comme celui qui a inventé l'art moderne. Mais pour vous, son petit-fils, alors âgé de 11 ans, on peut dire que Picasso, en fait, naît ce 8 avril 1973, le jour de sa mort.
Véritablement. J'ai vraiment le souvenir de cette interruption du film qui signifiait une nouvelle très importante. Et le flash, avec cette voix monocorde, j'ai regardé ma mère qui était stupéfaite parce qu'elle avait eu quelques nouvelles quelques jours auparavant. Et j'ai compris qu'il venait de se passer quelque chose. C'est que ce grand-père, qui m'était un peu familier à travers les objets de la maison, on avait la chance d'avoir des tableaux, des sculptures, des photos de famille. Et d'un seul coup, cet homme, il sort de la maison, il devient une célébrité à la télévision. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte qu'un grand-père venait de naître pour moi, quelqu'un que je connaissais pas, peu, et dont je ne devinais absolument pas quel avait été son parcours artistique ou son parcours sentimental.
Mais comment se fait-il que, jusqu'à sa mort, donc l'année de vos 11 ans, vous n'ayez jamais rencontré votre grand-père ?
Ma mère s'inquiétait, dans les dernières années, des rumeurs qui disaient que le portail restait toujours fermé. Elle avait cette inquiétude de devoir affronter peut-être une erreur ce jour-là, le gardien qui dirait que monsieur est occupé. Et quelques années plus tard, devant moi d'ailleurs, ma mère en a parlé avec Jacqueline, sa veuve, celle qu'on accuse de tous les maux. Et Jacqueline lui a dit « Mais jamais pour toi, Maya, enfin, tu es folle, tu aurais dû venir. » D'un autre côté, je pense qu'un petit garçon qui aurait eu 6-7 ans, comme moi à l'époque, face à un homme de près de 90 ans qui était obsédé...
Par son œuvre.
Par son œuvre et par l'idée que ça pouvait s'arrêter.
Qui s'enfermait d'ailleurs dans son atelier les dernières années pour continuer de peindre.
Absolument, en disant « J'ai peut-être trouvé quelque chose, une manière de survivre. » Eh bien, je pense que l'échange n'aurait pas été très intéressant. Donc, je n'ai pas du tout de regret de ce qui s'est passé. Ma mère a suffisamment de souvenirs pour pouvoir faire revivre cet homme de manière très personnelle. Et donc, ça s'est passé comme ça. Mais et ça se passe bien.
Votre maman, donc, la fille de Picasso, de 1935 à 1955, a vécu une relation très tendre et très proche avec son père. C'est peut-être l'enfant qui a été le plus proche du maître. Il n'a jamais, lui qui semblait injoignable, verrouillé donc dans son atelier, il n'a jamais tenté en fait d'entrer en contact avec elle.
Il est toujours resté en contact avec elle et il est resté en contact avec ma grand-mère, Marie-Thérèse. Vous savez, Marie-Thérèse Walter, qu'il avait rencontrée en 1927, qui à l'époque n'avait que 17 ans, a vécu une vie incroyable. Elle est restée ainsi en contact avec lui à travers des petits mots désuets, bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Et donc même avec l'accord de Jacqueline, qui était quand même la dernière épouse et qui aurait pu s'en offusquer, le lien était resté. Donc finalement, pour moi, il n'y avait pas de difficulté. Et la relation de Pablo avec sa fille Maya était exceptionnelle parce que la période était favorable à ce genre de choses. Il y a eu la guerre également qui a fait que tout s'est arrêté pour tout le monde. Et au niveau affectif, à Paris, Pablo avait Marie-Thérèse, elle avait Maya.
Et puis les artistes sont auto-centrés. Alors, Olivier Picasso, vous avouez, en fait, Picasso, c'était l'absence, mais... Pourtant, j'ai grandi avec lui dans les conversations et sur les murs. Il y avait donc des toiles et des dessins de Picasso dans l'appartement de votre enfance sur le vieux port de Marseille.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai ce souvenir de ce tableau qui représente ma mère avec un tablier rouge, un tableau connu qui d'ailleurs est exposé régulièrement dans le monde. Et ce qui est amusant, c'est que ce tableau qui me paraissait tellement grand quand j'étais petit, il a rapetissé avec l'âge et je l'ai trouvé d'une taille normale.
Une question qui s'impose. Vous n'avez jamais été cambriolé ? Des toiles de Picasso accroché sur les murs d'un appartement sur le vieux port à Marseille.
Sans doute qu'à l'époque, il n'y avait pas de liaison qui était faite entre nous et puis ce que pouvait contenir l'appartement. Mais vous savez, aujourd'hui, voler un Picasso, c'est impossible. Parce que si vous le volez, avec la technologie, avec Internet, l'information sera tout de suite transmise et votre œuvre sera irrévendable.
La toile Maya au tablier rouge, donc peinte en 1938, votre maman avait alors 3 ans, est tout à fait étonnante puisque son visage, interprété par l'artiste, présente, j'ai envie de dire, une distorsion hypnotique. Alors, comme elle était accrochée cette toile dans l'appartement familial, votre père, lui, étant officier de marine, ingénieur, donc structuré d'une manière terriblement rationnelle, j'imagine qu'il devait considérer d'un drôle d'œil l'étoile de votre grand-père.
Mon père nous a aidés à nous construire de manière rationnelle, là où mon grand-père avait toutes les qualités pour mettre l'irrationnel dans nos vies. Et je pense que avoir d'un côté un officier de marine qui a un discours tout à fait construit, de l'autre côté, s'habituer au fait qu'un visage humain sur une toile a les deux yeux et le nez du même côté, c'était un bon équilibre.
Alors on continue de dérouler le fil familial proche, en parlant d'ailleurs de votre maman, Maya. Elle aussi tenait beaucoup à sa liberté. Il paraît qu'elle avait refusé que son père Pablo Picasso lui offre un appartement sur le port de Saint-Tropez. Je rappelle que c'était une enfant naturelle. Elle avait également refusé qu'il lui offrît un terrain de 2 hectares en bord de mer, toujours à Saint-Tropez, sur la plage de Pamplonne. C'est tout à fait étonnant. Elle accepta seulement une dot relativement modeste quand elle épousa, donc en 1960, votre père, Pierre Wiedermeyer. Mais Picasso, alors qu'il ne se voyait plus à l'époque, tenait à être généreux avec votre mère. Il n'était donc pas du tout l'homme oublieux dont on a souvent brossé le portrait.
On a brossé un portrait totalement faux. Pablo Picasso a toujours eu beaucoup de considération pour ceux qui avaient besoin. Il l'a fait pendant la guerre d'Espagne, en aidant les réfugiés espagnols qui étaient dans le sud de la France. Il a aidé ses amis, il a aidé sa famille, il a versé des pensions à tout le monde. Donc évidemment, c'était un homme généreux. Quant à ma mère, elle voulait être une femme libre. Donc elle voulait sans doute se libérer d'un univers qui devenait trop complexe. Vous savez, Pablo Picasso, avant la Deuxième Guerre mondiale, est un artiste connu d'un milieu artistique. Et donc, ma mère était fatiguée, en fin de compte, d'un univers dont elle sentait qu'elle allait perdre pied. et elle a voulu sa liberté.
Il y avait beaucoup de vénalité autour de lui.
Certainement, vous savez, l'art et l'argent ont toujours été liés, sauf que le marché de l'art est né au XXe siècle et je pense qu'il est né fondamentalement avec Picasso.
Absolument, et ça on va l'évoquer. Europe. Alors, la balade qu'on fait cet après-midi est follement romanesque et en même temps, elle nous parle de la grande histoire. S'interrompt un bref instant, on retrouve tout de suite Olivier Picasso.
Bel après-midi à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre comme chaque week-end. 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet. Un entretien d'une heure en tête-à-tête avec son invité. Isabelle Morizet reçoit cet après-midi le petit-fils du célèbre peintre Pablo Picasso, Olivier Picasso sur Europe 1.
Olivier Picasso, le destin est parfois facétieux. Vous êtes juriste de formation, vous avez une maîtrise en droit des affaires et troisième cycle de fiscalité sur le droit d'auteur. Or, en fac, pendant vos études, il paraît que vous avez eu comme sujet au cours d'un examen en droit des familles la succession Picasso. C'est vrai ça ?
C'est vrai, c'était un pied de nez dans mon histoire et j'ai dû plancher sur un sujet que
vous en êtes bien sorti,
dont je vivais également les éléments affectifs et pas seulement légaux. Alors c'est vrai que la succession de mon grand-père a fasciné parce qu'elle était d'abord, dans un sens, la logique de la loi Malraux sur la dation, c'est-à-dire la possibilité de payer les droits de succession avec des œuvres d'art,
voilà.
Ce qui a conduit au musée Picasso de Paris,
voilà,
qui est extraordinaire.
Création.
Et de l'autre côté, il fallait régler des situations différentes. Il faut savoir que Pablo Picasso s'était marié en 1917 avec Olga. Elle était russe, lui était espagnol, donc ils étaient étrangers. Et en Espagne, le divorce n'existait pas.
Ouais.
Donc on était mariés pour la vie.
Ouais.
Et puis en 1932 apparaît la République espagnole qui, elle, instaure le divorce. Pablo vient de rencontrer Marie-Thérèse, c'est une double vie, il est toujours marié à Olga.
Il veut donc divorcer, épouser votre grand-mère.
Ma grand-mère tombe enceinte, il veut divorcer, bien sûr, pour épouser ma grand-mère. Et d'ailleurs, ce qui est très important, et ce qui montre bien l'évolution de la société, c'est que Olga, qui aurait pu recevoir la moitié de la fortune de son époux, ne voulait pas être une femme divorcée. Elle savait qu'une femme divorcée serait mise au banc de la société. Et puis le destin va s'en mêler et c'est l'arrivée du général Franco en Espagne qui va abolir le divorce, qui va faire qu'ils vont obtenir une séparation de corps. Donc Olga restera Madame Picasso, Pablo gardera ses œuvres, mais il ne pourra pas reconnaître Maya. Puisque jusqu'en 72, homme marié ne peut pas reconnaître les enfants nés hors du mariage.
Or, en août 1972, donc 8 mois avant la disparition de votre grand-père Picasso, voilà qu'une loi est votée, je crois que ça c'est sur l'instigation d'André Malraux, n'est-ce pas, et qui permet enfin aux enfants naturels une reconnaissance judiciaire. Donc cette loi de 72, elle a changé le destin du petit garçon de 11 ans que vous étiez ?
Absolument, puisque bien naturellement, Maya, mais aussi son frère Claude et sa sœur Paloma,
qui également était enfant
voilà,
naturel.
Demande à la justice de reconnaître qu'ils sont les enfants de Pablo Picasso. Mon oncle Claude m'a dit, ça a pris 1h30 au tribunal, ça a été rapide. Ils ont été reconnus. Et ce qu'il faut voir pour rendre justice à Paul, le fils aîné, lui,
ouais.
Légitime, né
ouais,
d'Olga,
ouais.
Et à Jacqueline, sa veuve, qui aurait eu beaucoup à perdre de voir 3 nouveaux héritiers, eh bien, ils n'ont pas fait appel de la décision.
Ouais. Alors, si vous portez le nom de Picasso, effectivement, c'est grâce à cette fameuse loi de 1972, mais pas seulement, parce que si on revient réellement à la source, c'est la vision solaire d'une très jeune fille de 17 ans, un jour de l'hiver 1927, devant les Galeries Lafayette, qui explique donc votre existence, Olivier Picasso. Le génie de la peinture moderne a déjà 46 ans, les collectionneurs les plus fortunés de la planète s'arrachent ses toiles, et quand il s'approche de l'ingénu pour lui dire « J'aimerais faire votre portrait, je crois que nous allons faire de grandes choses ensemble. » La jeune fille est presque apeurée, elle n'a jamais entendu parler de Picasso,
oui.
Elle ne connaît rien des hommes, elle aurait pu s'enfuir.
Mais elle s'est souvenue que ce monsieur était charmant, qu'il avait une jolie cravate. Et donc elle lui a fait confiance, elle lui a dit « rendez-vous demain au même endroit ».
C'est ce que vous a raconté votre grand-mère,
oui.
Il avait une jolie cravate.
Et d'ailleurs elle a tenu à ce que cette cravate soit mise dans son cercueil. Elle est partie avec ce souvenir.
Pendant combien d'années Picasso, donc qui est marié à ce moment-là, va-t-il mener en fait une double vie avec votre grand-mère ?
Pendant plusieurs années, puisque personne ne se doutera de ce qui se passe, Pablo avait vécu les années 20 à travers une sorte de vie mondaine, la période duchesse, avait dit Jean Cocteau. Et il retrouve avec Marie-Thérèse une simplicité qui le renvoie peut-être à ses premières années, celle du bateau Lavoir. Celle de la vie simple où on parle d'art et de culture avec les amis, artistes, avec les visiteurs. Et puis avec les premières amours. Et Marie-Thérèse, c'est cette jeune fille qu'il va accompagner, à la fois dans son destin de jeune fille devenant femme et bientôt mère. Et puis lui, il retrouve on va dire, une inspiration. Il s'était endormi, il se réveille.
Il se réveille. Alors, est-ce qu'on peut dire que chaque femme qui entre dans la vie de Picasso inspire en fait un nouveau chapitre de sa peinture ?
Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes qui ont rencontré mon grand-père. Et je pense que Pablo Picasso n'est surtout pas un peintre de l'abstraction.
Lui, puisqu'il disait qu'il avait besoin de modèles.
Il avait besoin de modèles. Une personne, de préférence une femme, un objet ou bien un paysage. Et c'est quelqu'un qui veut redécrire notre réalité.
Et en même temps, il y a des chapitres très sombres, Olivier Picasso, parce qu'il est rare qu'une femme qui décide de mettre fin à ses jours le fasse par pendaison. La pendaison, c'est une mort plus souvent masculine. Or, votre grand-mère, 4 ans après la disparition de Picasso, s'est donné la mort par pendaison. Vous l'expliquez comment, ce geste ?
Alors, le geste lui-même, le choix, je ne me l'explique pas, facilité, simplicité, je ne sais pas. Le processus, il me paraît tout à fait normal. Une femme qui a vécu une période de rêve, dont le visage est immortalisé sur des œuvres dans le monde entier, qui a réussi à conserver un lien, même très simple, avec celui qu'elle a aimé, c'est extraordinaire. Et puis en 73, tout s'arrête, c'est fini. Et je pense que dans les années qui ont suivi, Marie-Thérèse a vécu un phénomène de solitude affective. Et son suicide en 1977, et je me rappelle très très bien de ce jour, a été une logique dans cette affaire, dans cet amour plutôt. Elle l'a rejoint. Et 10 ans plus tard, vous savez que Jacqueline, sa veuve, va elle aussi mettre fin à ses jours. Et je pense que c'est dans une logique identique. Elle était évidemment la veuve. Celle qui avait presque un rôle à jouer. Et d'ailleurs, elle mettra au point les derniers détails d'une exposition à Madrid, où elle est censée se rendre. Et puis, elle se suicide. Elle aussi, elle rejoint Picasso.
Europe 1. Je reçois cet après-midi le petit-fils du père de l'art moderne. C'est en compagnie d'Olivier Picasso que nous cheminons. On se retrouve tout de suite.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Isabelle Morizet en podcast sur notre site europe1.fr. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Olivier Picasso sur Europe 1.
Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune. Il y en a d'autres qui font d'un point jaune un véritable soleil. Ainsi parlait et peignait Pablo Picasso, auquel 2 musées à Paris consacrent des expositions essentielles. Le musée d'Orsay jusqu'au 6 janvier, le musée Picasso Paris jusqu'au 13 janvier. Et je reçois le petit-fils du maître, Olivier Picasso. Alors cher Olivier, 4 ans, il a fallu 4 ans à Maurice Reims pour faire l'inventaire prodigieux des dizaines de milliers de peintures, sculptures, dessins, céramiques et collages que Pablo Picasso avait autour de lui à sa mort en 73. Il avait tellement conscience d'ailleurs du caractère sacré de son œuvre, Picasso, que dans la deuxième moitié de sa vie, il avait choisi en fait de peu vendre, toujours en sélectionnant lui-même et en édictant les règles, même sur un marché de l'art devenu international. Mais ce qui est fou, c'est que pour une succession estimée en 77 à 1 milliard de francs, eh bien, Picasso n'avait laissé aucun testament.
Ça faisait partie des règles, je pense, de sa vie, d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Et, comme il était un peu superstitieux, l'idée de faire un testament, c'était mourir demain.
C'était mourir demain.
Et ne pas faire testament, c'était finalement ne privilégier personne et laisser chacun recevoir ce qu'il devait recevoir.
Alors, il faut dire qu'en 2001, le Daily Mail, quotidien britannique célèbre, avait calculé donc le réajustement de cet héritage, en fonction bien sûr des cotes absolument astronomiques des toiles et autres œuvres vendues aux enchères. Ça avait été estimé à 10 milliards d'euros. Mais à la mort de Picasso en 73, déjà les héritiers avaient dû verser des droits de succession gigantesques à l'État. Et c'est ainsi, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, qu'est né le musée Picasso à Paris grâce au phénomène de dation, c'est-à-dire en donnant des œuvres. Mais comment s'est fait, Olivier Picasso, le choix des œuvres à garder par la famille et des œuvres à donner à l'État pour régler les droits de succession ?
La famille a pris la décision non pas de sélectionner elle-même ce qu'elle allait proposer à l'État, ce qui est la règle dans une dation, mais elle a demandé à l'État de faire son choix. Autrement dit, Maurice Reims, l'expert, a reçu une sorte de commission créée par l'État pour venir sélectionner ce qui serait le musée Picasso le plus parfait. Alors, à l'époque,
Il n'y a pas eu de conflit.
Il n'y a pas eu de conflit. Et tout s'est très bien passé avec beaucoup d'intelligence de la part de la famille, oui. Beaucoup de perspicacité de la part des autorités culturelles et financières de l'État. Et c'est ainsi que le musée national Picasso Paris est né en 1986. Et aujourd'hui, il est dirigé par Laurent Lebon, oui. Qui a su, depuis sa nomination en 2014, donner un élan absolument considérable. L'idée de penser qu'entre 2017 et la fin 2019, il y aura en Europe seulement 42 expositions Picasso avec des thématiques différentes, ça montre à la fois que l'œuvre est possible, l'œuvre peut s'adapter à des thématiques différentes, et puis surtout, ça permet à des gens qui n'auraient jamais vu de Picasso de oui. pouvoir s'approcher d'une œuvre et de ressentir une émotion qui est très différente de celle de voir une image sur Internet ou dans un catalogue.
Il y a 8 musées Picasso dans le monde, c'est
oui,
ça ?
Oui, avec évidemment celui de Paris qui est exceptionnel, mais il y a également le musée Picasso d'Antibes qui est magnifique, au Château Grimaldi, il y a le musée Picasso de Barcelone, avec principalement les œuvres de jeunesse.
Il y a un musée... N'oublions pas que Picasso est espagnol.
Exactement, il y a d'ailleurs un musée à Malaga, qui est un musée qui témoigne de l'attachement de Pablo à cette ville où il est né.
Alors, depuis ces années, c'est-à-dire la création du musée Picasso, a été créée la Picasso Administration, une société qui gère les droits de l'indivision Picasso et tous les intérêts des 5 héritiers. Olivier Picasso, 5 héritiers dont vous ne faites pas encore partie.
Bah non, mais mes parents sont vivants, donc
parce qu'on parle toujours de vous comme un héritier, c'est faux.
C'est faux, moi je suis quelqu'un qui a appris à travailler, qui a fait des études et qui a beaucoup de plaisir à finalement à vivre avec Picasso sans pour autant être l'héritier au sens patrimonial, financier auquel on pense.
Et d'ailleurs, un jeune homme qui a eu déjà des vies multiples, on l'évoquera tout à l'heure, producteur heureux de Yannick Noah, Saga Africa, oui. Méga tube, c'est grâce à vous, c'est vous qui l'avez produit.
En effet, j'avais rencontré Yannick à l'occasion d'une émission de télévision, et puis Yannick s'était confié en disant qu'il avait envie finalement d'avoir une suite à sa vie d'athlète et de champion de tennis. Et puis, il avait gratouillé, en quelque sorte, quelques idées. Et puis, je me suis dit que c'était intéressant de l'accompagner. Alors, je l'accompagnais sur un titre, 2 titres, 3 titres, 4 titres. Et puis, au bout d'un moment, avec 10 titres, je lui ai dit, tu sais, on a de quoi faire un album. Et puis, le destin s'en est mêlé. À l'époque, on avait les fameux tubes de l'été qui étaient promotionnés par une chaîne de télévision. Et puis, ils ont choisi ce que je pensais être le dernier titre de l'album, Saga Africa. Et l'anecdote incroyable, c'est que j'étais là le jour de l'enregistrement, en studio, oui. Et Yannick, cette chanson évidemment a tout ce charme à la fois, comme je dis Yannick, des pieds en Afrique et la tête en Europe, oui. Il a mis un accent africain qui était plutôt drôle, et je me rappelle avoir appuyé sur un bouton en lui disant « Yannick, est-ce que tu pourrais la refaire avec une voix sans accent en français ?» Et il m'a répondu directement oui. « Non, je la sens comme ça ». Il avait raison.
Alors, je reviens à des choses plus, on va dire, sérieuses, plus austères, la fameuse Picasso Administration. Est-ce que vous participez, en fait, à la surveillance du rayonnement de l'œuvre de votre grand-père ? Est-ce que, par exemple, vous soumettez des partenariats, Olivier Picasso ? Ou est-ce que vous en refusez certains ?
Alors,
vous êtes consultant ?
Il faut savoir qu'il y a un administrateur qui est en charge de tout ce qui touche à l'œuvre, au nom et à l'image de Pablo Picasso. À partir de là, chacun peut venir proposer un projet. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. À la fin des années 90, il y avait un très grave problème de marque Picasso illégalement déposée dans le monde entier. Plus de 700 produits ou services possiblement qui pourraient apparaître. Et j'ai suggéré quelques idées et j'ai conçu à la fois l'idée et la structure d'un accord de licence avec un constructeur automobile. Et c'est ainsi qu'on a osé donner le nom d'un grand peintre pour la première fois dans l'histoire à une automobile. Et ça a été le succès que l'on sait. Ça a été le succès que l'on sait. Et à la fois, ça a permis de régler énormément de problèmes de marques illégales dans le monde.
En fait, Picasso a fait de vous, pas seulement donc un conseiller qui se sert bien de toute son expérience comme juriste, mais un auteur, véritablement un auteur. Parce que votre dernier livre, Picasso Portrait Intime, a été traduit aussi bien en russe qu'en japonais. En août 2019 d'ailleurs, on vous attend sur les plateaux de télé chinois pour raconter la vie et expliquer l'œuvre de votre grand-père.
Et d'ici là, à l'automne, ce sera le lancement aux États-Unis.
Eh bien, mais alors parallèlement à tout ça, vous organisez de nombreuses expositions dans le monde entier, comme des expositions de photos, par exemple, qui vous emmènent jusqu'à Bali. Enfin,
c'est vrai que j'ai
la chance.
Vous
avez de nombreuses vies, Olivier Picasso.
Oui, tout en restant modeste. Je sais que je dois une partie de cette vie, en effet, à cette relation à un grand-père exceptionnel. Et puis, il y a l'envie aussi de mener des projets. Je crois que c'est une façon de faire partie de la réalité, de la vie, telle qu'on doit la vivre, avec ses hauts, ses bas, même si, c'est vrai, j'ai quand même certains avantages.
Vous êtes le plus communicant, en fait, de toute la famille Picasso.
J'habite à Paris, je suis heureux en France, j'ai travaillé dans les médias, donc évidemment j'ai envie de communiquer et j'essaye d'être honnête et toujours juste. Je crois que j'ai un devoir de vérité, notamment par rapport à la vie et l'œuvre de mon grand-père, qui m'amène à avoir plaisir à parler de Pablo Picasso tout en étant conscient que tout n'a pas été facile.
Écoutez, Europe 1, très bon samedi, profitez bien de votre après-midi, de vos vacances. Peut-être vous nous écoutez du côté des stations de ski, à Chamonix-les-Ouches sur le 102.9 ou à Val Thorens sur le 104.6 ou tout simplement sur internet europe1.fr. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit Olivier Picasso.
Olivier Picasso, vous, petit-fils du peintre le plus célébré pour avoir inventé l'art moderne. Il a d'ailleurs les plus cotés au monde entre Léonard de Vinci, Gauguin et Cézanne. Je rappelle que la toile « Les femmes d'Alger » peinte par votre grand-père en 1955 a été vendue il y a 3 ans par Christie's 180 millions de dollars. Eh bien vous, Olivier Picasso, non seulement vous trouvez la sagesse de dire « il faut vivre avec Picasso et non pas par Picasso », mais en plus vraiment vous l'appliquez, puisque vous nous avez conté comment vous êtes devenu producteur de disques avec Yannick Noah à l'instant, mais pas seulement. J'ai appris, alors là j'étais très surprise, que vous avez même signé des albums avec Gloria Gaynor.
Oui. Au début des années 90, vous savez, il y avait cette mode de réorchestrer.
Mais vous étiez très très jeune.
Disons que j'avais connu Gloria Gaynor quand j'étais un adolescent.
Vous aviez 29 ans.
Voilà, comme tout le monde, j'avais connu Never Can Say Goodbye ou I Will Survive. Et puis, s'est présentée l'opportunité de lui faire réenregistrer ses plus grands tubes et certains autres. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Gloria Gaynor, icône absolue. Et elle est venue à Paris avec son mari, un ancien policier de la circulation de New York. Et Gloria Gaynor est une femme très sage, très calme. Donc on a l'impression qu'elle est dans la vague disco, un petit peu comme une écervelée, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui vous parle à la fois de l'avance qu'elle va toucher, tout en vous rappelant qu'elle est très liée à Dieu et que c'est très important dans sa vie. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une personnalité hors du commun, comme d'autres que j'ai pu croiser dans ma vie.
Alors, en fait, vous avouez que cette absence totale de souvenirs, parce que c'est très étonnant, vous portez le nom, mais vous n'avez jamais rencontré votre grand-père, cette absence totale de souvenirs face justement à cet artiste peut-être trop célèbre, trop talentueux, trop vampirisant, trop fortuné, elle vous a protégé, elle vous a libéré, décomplexé. La plupart de ceux qui ont approché de très 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 près le soleil noir qu'était Picasso ont terminé leur chemin de façon funeste. Parce qu'on parle avec vous, c'est très tonique, tout est très solaire. Mais autour de Picasso, il y a eu combien de suicides?
En effet, vous savez, après la mort de mon grand-père le 8 avril, quelques jours plus tard, c'est mon cousin, Pablito, qui en fin de compte s'appelait Pablo Picasso, ce qui était en soi déjà terrible, qui a mis fin à ses jours parce que la porte était restée fermée. La grille de la villa de Mougins était restée fermée et il n'avait pas supporté de ne pas voir la dépouille de notre grand-père. Donc j'ai été face à la mort très rapidement en essayant de comprendre comment un jeune homme d'une vingtaine d'années peut mettre fin à ses jours, comment ma grand-mère, 3-4 ans plus tard, s'est tuée. Donc il a fallu que j'accepte beaucoup de choses que des enfants n'ont pas l'habitude de connaître. Mais ça m'a aussi forgé à la fois un grand respect pour la réalité historique, et il fallait absolument ne jamais tomber dans une forme de préférence pour un tel ou pour telle personne, et une forme de respect pour tous ceux qui n'ont pas ma chance, mais dont la vie est impactée par Pablo Picasso. Je pense aux historiens, je pense aux journalistes, je pense aux commissaires d'exposition, aux conservateurs de musées, qui eux n'ont peut-être pas les avantages du nom et de la fortune de Pablo Picasso, mais qui sont formidable. Chaque jour, ils m'apprennent beaucoup de choses sur ce grand-père, à la fois sur l'homme et puis sur l'artiste.
Qu'y a-t-il de Picasso en vous, Olivier?
Le pourquoi pas. Le pourquoi pas. Mais je dois dire que lorsque j'ai visité il y a quelques jours l'exposition Picasso bleu et rose, on entre dans cette exposition, l'artiste a 19 ans. On en sort, il n'en a que 25. Et encore près de 70 ans à vivre et à créer. Et donc ça force le respect. Et en même temps, c'est très fatigant. Parce que je me dis qu'une telle énergie, c'est absolument unique. Un homme qui, du début jusqu'à ses 91 ans, n'aura eu de cesse de vouloir créer et, on va dire, accomplir une mission.
Europe 1. Accomplir une mission et en même temps, il était dans la quête, dans la recherche de quelque chose à la fin de sa vie. On va l'évoquer dans un instant, on se retrouve tout de suite en compagnie d'Olivier Picasso. Europe 1.
bel après-midi avec Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité Olivier Picasso sur Europe 1.
Olivier Picasso, à la fin de sa vie, enfermé dans son atelier, Picasso, votre grand-père, répétait à ses proches qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose d'essentiel qui le dépassait. Et ceux qui le regardaient vivre avaient le sentiment qu'il avait entamé une course contre la montre, on pourrait dire une course contre la mort. Il était extrêmement superstitieux, Picasso.
Il était très vigilant, vous l'avez rappelé, il était né à la fin du 19e siècle, dans une Espagne rigoriste, dans laquelle la religion était religion d'État.
Et donc, lui refusait tous les dogmes de l'Église, hein,
oui.
Même s'il avait le sens du sacré. D'ailleurs, son œuvre à lui était sacrée.
Exactement. Cependant, c'est quelqu'un qui associait probablement le sacré avec la superstition. Et donc, il était très attentif. Il s'intéressait aux tables qui tournent,
oui, au spiritisme.
Et éventuellement à ce qu'on appelle aujourd'hui les tocs. Il allait vérifier qu'une porte était bien fermée ou des choses comme ça. Donc, cette notion de sacré était l'expression de la religion dans sa vie. Et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, on regarde ça avec amusement. Mais c'est très important pour lui.
Mais pensait-il, par exemple, que le grand ordonnateur des choses, là-haut, lui qui ne croyait pas en Dieu, eh bien quand même que ce grand ordonnateur lui soufflait son inspiration en tenant sa main quand il peignait ?
Dès l'enfance, notamment au moment de la mort de sa petite sœur, il a eu le sentiment qu'il avait une mission, que ce talent n'était pas innocent, que donc il devait être guidé par la création. Et je pense que cette frénésie de travail était l'expression de l'accomplissement de cette mission. Et à partir d'un certain moment, lorsqu'il a pu conserver suffisamment d'œuvres, parce que dans l'exposition Picasso Bleu et Rose, il faut bien comprendre, c'est une période très pauvre. Il a besoin de vendre, c'est pour ça que les œuvres sont parties dans le monde entier dans des collections extraordinaires.
Alors que dans la deuxième moitié de sa vie, au contraire, il freine les ventes, n'est-ce pas ?
Il freine les ventes, il conserve, il crée quelque part le musée idéal qui sera le témoignage d'un homme, mais je crois le témoignage d'un artiste.
Le musée idéal était chez lui, en fait.
Le musée idéal était chez lui et le musée Picasso de Paris et l'interprétation de ce vœu, je crois, de manière extraordinaire.
Mais pourquoi Picasso a-t-il toujours refusé de s'exprimer devant un micro ?
Ah, alors ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de comprendre. Et en fin de compte, il y avait deux raisons. La première, c'est qu'il se méfiait beaucoup de la façon dont on pouvait extrapoler une conversation pour lui faire dire autre chose. Et Pierre Dex, un grand historien de Picasso, m'a dit qu'il refusait le magnétophone, et ça le rendait fou. La deuxième explication, et ça nous renvoie quelque part à sa situation d'expatrié, de migrant de l'époque. Ouais. Je crois qu'il était très coquet et il avait conservé son accent espagnol. Et il n'aimait pas ça. Donc il n'aimait pas s'entendre. Et donc,
il n'aimait pas s'entendre.
Et lorsque j'ai produit un grand documentaire qui s'appelle « Picasso, l'inventaire d'une vie », qui a été diffusé il y a quelques années sur Arte et qui tourne dans le monde entier, on a eu le plus grand mal à trouver des enregistrements de Pablo Picasso.
Oui.
Et on s'est rendu compte qu'il avait réussi à passer toute sa vie en échappant aux caméras. Et il a donné juste une petite interview à Saint-Tropez, à la télévision
belge, à
un journaliste rencontré par hasard, qui lui a posé quelques questions.
Qui lui ont plu.
Eh bien, lorsqu'il donne cette interview, il répond avec simplicité et beaucoup, beaucoup de gentillesse à des questions essentielles sur la guerre, l'amour. Et il dit « Tout me conduit par l'amour et vers l'amour. Et s'il n'y avait rien à aimer, ben j'aimerais n'importe quoi, même un bouton de porte.
» Cher Olivier Picasso, devant quelle œuvre de votre grand-père vous réveillez-vous le matin ? Chaque matin que Dieu fait.
Mais écoutez, principalement en ce moment, un portrait de Jacqueline.
Pourquoi ça change, les accrochages ?
Ça peut changer grâce au travail
Quel
de
luxe.
Ce grand-père. Ça peut changer en effet. Mais pour être plus précis et permettre à tout le monde de le voir, lorsque j'ai visité l'exposition Picasso Bleu et Rose, il y a tous ces autoportraits qui témoignent de périodes. La période de l'arrivée à Paris en 1900, un tableau flamboyant.
Donc ce sont des toiles que vous avez données en fait à cette exposition du musée d'Orsay.
Ce sont des toiles qui ont été prêtées par des collectionneurs.
Oui.
Il y a notamment le Yo Picasso qui flamboie, qui est inspiré par Toulouse-Lautrec ou Gauguin, qui est au début de l'exposition. Et juste à côté, un autoportrait bleu, un autoportrait qui témoigne de toute la difficulté que vient de rencontrer Pablo Picasso à la suite de la mort de son ami Carlos Casarremas,
oui,
qui s'est suicidé. Et Pablo n'a que 20 ans.
Oui.
Il est confronté à la mort. Et en même temps, c'est la difficulté de vivre à Paris. C'est dur, il n'a pas d'argent. Et cet autoportrait bleu est fascinant parce que vous y voyez à la fois un jeune homme qui a vieilli et en même temps, vous y voyez toute la misère du monde telle qu'il a voulu la représenter.
Olivier Picasso, en 2043, Picasso tombera dans le domaine public. Donc concrètement, ça signifie quoi ?
Ça signifie deux choses. Ça signifie que tout le monde pourra reproduire une œuvre de Pablo Picasso sans demander d'autorisation. Alors on espère que les gens seront toujours vigilants à respecter l'intégrité des œuvres, les couleurs. De notre façon, il faut savoir qu'il a fallu se défendre Pablo Picasso sur le terrain des marques. Et c'est moi-même qui ai proposé de déposer certaines marques au moment de la licence automobile. Et il fallait le faire. Et cette protection va pouvoir continuer au-delà de 2043. Donc il y aura une façon toujours d'être vigilant. Parce que la mission de la famille, c'est pas nécessairement de faire des affaires, c'est surtout de protéger une œuvre et de la promouvoir.
Son intégrité.
D'une façon fidèle à la reproduction, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, aussi pour permettre à des expositions d'avoir lieu, en essayant d'accompagner tous ceux qui les organisent dans le monde entier.
Alors, Picasso disait « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien ». Donc, tant qu'il restera de la place pour quelques tableaux dans ce monde peuplé d'ordinateurs, eh bien, l'homme n'aura pas renoncé à rêver.
Heureusement, heureusement. Je crois même que l'ordinateur va aider à consulter des sites pour se donner l'envie d'aller voir les œuvres d'art. Et puis, surtout, il y a heureusement...
Il va permettre d'engranger comme une caverne miraculeuse.
Oui, et de permettre la diffusion d'une œuvre, comme c'est le cas pour des artistes contemporains. Je suis certain que si mon grand-père avait vécu, il aurait été intéressé par la vidéo dans les années 80. Et Internet l'aurait fasciné. Vous imaginez, pouvoir transmettre au bout du monde quelque chose, c'est extraordinaire. Et pouvoir être inspiré par quelqu'un ou quelque chose au bout du monde.
J'imagine votre grand-père discutant avec Jeff Koons ou Anish Kapoor.
En FaceTime, par exemple.
Alors, cher Olivier Picasso, Picasso période bleue et période rose est à découvrir jusqu'au 6 janvier au musée d'Orsay, quand au musée Picasso Paris, il présente les chefs-d'œuvre des périodes postérieures jusqu'au 13 janvier prochain. Merci infiniment pour votre générosité. Merci de nous avoir embarqués dans une balade absolument passionnante. Je vous dis à très vite.
Merci beaucoup Isabelle Morizet. On vous retrouve dès demain 15h sur Europe 1. Avec votre nouvelle invitée, une heure en tête-à-tête avec André Manoukian. Et je vous rappelle, vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Isabelle Morizet, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, en podcast sur notre site europe1.fr. Dans quelques minutes, êtes-vous prêt à jouer le jeu? Le meilleur de Laurence Boccolini, accompagné de son invité Thomas VDB. Et c'est à partir de 16h sur Europe 1. Europe 1.